Salut Hugues.
Bonjour Marc.
J'ai envie de te dire Hugues, Hugues.
C'est Marc.
À l'indienne, Hugues. Hugues Mouret, tu es le patron, tu es le directeur scientifique d'Arthropologia, qui est une asso copine de Baleine sous Gravillon. En gros, vous faites surtout les insectes, les pollinisateurs, tu fais des confs partout. Vous faites aussi des prestats pour des collectivités sur renaturer son jardin, etc. On va te qualifier d'expert en la matière et on va faire justement des émissions là-dessus. On a fait d'autres émissions avec toi sur les auxiliaires de culture. Ça avait été une grande balade dans le vivant des insectes. On avait parlé des hyménoptères, on avait parlé des guêpes, on avait parlé des coléoptères. On avait vu comment tout ça, finalement, il faut le préserver, pas juste pour faire beau, mais parce que ça rend beaucoup de services qu'on qualifie d'écosystémiques, mais tout simplement qui rendent des services aux cultivateurs, aux paysans, pour le dire plus simplement. Et donc là, avec toi, on va commencer par se faire mal, par se faire peur. On va parler du triste état de la biodive et des causes de ce triste état. Mais on va aussi parler de solutions et on va aussi parler de ren-sauvager son jardin. On va parler de création de haies nourricières. On va parler des prairies, on va parler des mares. En gros, on va parler de ce que chacun peut faire. Parce que j'ai envie que tu nous rappelles ce que tu nous avais déjà dit dans les autres épisodes. En fait, les jardins particuliers, c'est pas rien en France. C'est une grosse part de la biodive et les gens n'en ont peut-être pas assez conscience. On va rappeler une énième fois l'importance de ces jardins. Tu m'as dit que c'était 1 million d'hectares.
Oui.
Et que ça représente 4 fois toutes les réserves naturelles de France.
Voilà, presque 4 fois, ouais, c'est ça. Et évidemment, il y a le levier le plus important est sur les plus grands espaces, les espaces agricoles, les espaces sylvicoles. Mais pour autant, chacun, à portée de main, on a un moyen d'agir en limitant ou en arrêtant les modalités de gestion, d'aménagement, de choix et en laissant la nature se développer dans toute ou partie de son jardin. Et donc 1 million d'hectares, comme tu l'as dit, c'est presque 4 fois la surface de toutes les réserves naturelles. Donc si on inverse ça, ça veut dire que si on rend 1/4 des jardins des maisons, on double la surface des réserves naturelles. Et à ça, vous pouvez ajouter tous les autres espaces qui ne sont pas des espaces au bord des maisons, comme les pieds d'immeubles, les entreprises, les zones d'activité commerciale, les campus, les casernes, etc. On a en fait des millions d'hectares qu'on pourrait rendre en partie à la nature et qui bénéficieraient au maillage écologique global et notamment à la recolonisation des déserts qu'on a créés par une agriculture intensive, chimique et mécanique depuis quelques dizaines d'années.
Voilà, parce que c'est pas le tout d'avoir un jardin. Si c'est une pelouse régulièrement tondue, c'est un désert. C'est un désert biologique. Donc avoir un jardin n'est pas synonyme d'être copain avec le vivant autour, quoi.
Et non, puisque actuellement, le jardin, c'est essentiellement des plantes nanifiées avec une tondeuse et des arbres exotiques posés dessus. C'est ça que ressemble un jardin quand il y a encore de la terre et de la vie, quand on ne l'a pas remplacé par des cailloux noirs, des cailloux blancs, un palmier et puis un pin parasol. C'est malheureusement avec une piscine, c'est malheureusement à ça que ressemblent les jardins, alors que, en fait, la plupart du temps, quand on laisse monter ce gazon qui a été dégradé à coups de tondeuse, on voit réapparaître les fleurs. Et quand je vous ai décrit les herbes tondues avec des arbres, vous comprenez bien qu'il manque une composante essentielle, c'est la composante intermédiaire entre les arbres et les herbes, c'est les arbustes. Et les arbustes qui sont les plus gros pourvoyeurs de fleurs, de fruits, etc. Mais ce dont on va parler dans le ré-sauvagement, puisque ce sont les espaces qui s'embroussaillent et qui permettent le développement du climax, qu'on appelle ici la forêt, qui est le niveau d'évolution stable vers lequel la nature tend à aller.
Oui, parfait. On est face à ton jardin qui est une jungle et qui regorge de vie, de plantes. Ça ferait sans doute bondir mes propres parents qui malheureusement tondent tout le temps. Là, ton jardin, le niveau moyen de l'herbe, il m'arrive à peu près au niveau de la tête. Je fais 1m90. C'est une espèce de savane herbeuse, mais avec plein d'arbustes, avec de toutes les couleurs, avec 1000 insectes, des plantes, avec des feuilles géantes. Bref, ton jardin, il est vraiment super, je l'adore.
Et pourtant, tout à fait normal. Hein. Il n'y a aucune espèce rare, extraordinaire.
Oui.
C'est du commun, mais c'est fourni.
Je rappelle
c'est
que
fourni.
Cette merveille, tu l'as obtenue en ne faisant justement rien ou très peu.
Oh, bah, alors, il y a quand même des choses que j'ai plantées parce que j'aime bien. Il y a des cultures qui sont installées au milieu. Il y a même quelques arbres ou arbustes que j'ai ramenés. Mais l'essentiel, effectivement, est en renaturation spontanée.
Mais ce qui est drôle, voilà, c'est que ce que tu as fait, c'est des tout petits points, c'est quelques pourcents de ton jardin. Et tout le reste, tu l'as rendu finalement tout simplement au vivant. C'est le vivant qui s'en est occupé tout seul comme un grand. Quoi.
Et c'est cette partie qui marche le mieux.
Évidemment. Hugues, on va reprendre le fil de notre conversation sur cette biodiversité dégradée. Peut-être qu'on pourrait commencer par tout simplement rappeler notre place dans ce vaste univers.
Tout à fait, puisqu'il faut qu'on se rappelle quand même qu'on est perdu dans un petit vaisseau spatial qu'on appelle la Terre et qui est lui-même perdu sur le bras d'Orion, qui est un des bras de la galaxie en spirale dans laquelle on habite et qui s'appelle la Voie lactée. Et cette petite Terre, comme quelques autres planètes, au moins les deux premières planètes telluriques qu'on a, donc les planètes qui sont solides qu'on a autour du Soleil, sont situées dans un espace très très particulier qui en astronomie s'appelle la zone de boucle d'or. parce que c'est ni trop chaud, ni trop froid, ni trop près, ni trop loin.
Donc, de quand quoi même, du soleil.
Du soleil. Et donc, on a les bonnes conditions pour que la vie telle qu'on la connaît puisse se développer. Alors, le soleil est quand même à 150 millions de kilomètres. Donc, évidemment, c'est impossible de voir sur une même page le soleil et la Terre, puisqu'ils sont beaucoup trop loin. Sinon, avoir une toute petite tache lumineuse pour le soleil, absolument rien de visible pour la Terre. Et ce n'est d'ailleurs pas possible de voir la Terre et la Lune sur une page A4 ou A3, puisque ce seraient deux tout petits points qui sont séparés de 350 000 km. Donc, c'est des distances qui sont incommensurables. On est vraiment perdu dans l'univers. Et je tiens à rappeler que dans l'état actuel de la connaissance, la Terre est le seul endroit où la vie est connue. Très probablement d'autres endroits où la vie existe, peut-être pas de la même manière que sur la Terre, mais en tout cas, dans l'état actuel, c'est le seul endroit où on connaît la vie qui s'est développée et la beauté de ce monde qu'on est en train, malheureusement, de ravager, puisqu'on a atteint, et c'est là qu'on va parler des choses qui sont beaucoup moins agréables, une vitesse de destruction 1000 fois à 10 000 fois supérieure à la normale. Mais avant tout, je voulais rappeler qu'est-ce que c'est que cette biodiversité.
Alors ça, c'est typiquement ma relance.
Ouais, c'est ça, j'ai essayé de faire un appel.
Donc... Oui, non, mais c'est bien, c'est les trucs que t'es habitué, donc t'es pas habitué à avoir un connard qui te relance. Très bien, Hugues, tu nous as remis à notre place, on va dire ça comme ça. On pourrait ensuite rappeler ce qu'est la biodiversité, qui quelque part est un gros mot, et qui est un gros mot récent, hein. C'est pas un mot ancien. Tu vas peut-être nous rappeler d'où il vient et qui l'a inventé et pourquoi. Mais biodiversité, voilà, c'est une des manières, moi je dis tout le temps vivant, on parle aussi de biodiversité. Alors justement, c'est quoi la biodiversité ?
Alors moi je suis d'accord avec toi, je préfère le mot vivant. Mais la biodiversité, alors je vais vous définir ce terme, mais d'abord, comme tu l'as dit, l'origine du mot, c'est la contraction de biological diversity, donc la diversité biologique en anglais qui a été contractée. Et finalement, c'est ce qu'on pourrait qualifier de vivant, à la différence près que quand on évoque le vivant ou cette biodiversité, la plupart des gens, quand on leur pose la question, vont dire c'est la diversité de faune et de flore. Quand ils sont un petit peu plus aventureux dans la biologie, ils vont parler de la diversité des organismes en incluant d'autres organismes que la faune et la flore, par exemple les champignons ou les bactéries. Et ça, c'est le niveau le plus facile à voir, la diversité des organismes qui nous entourent. Sauf que c'est seulement un niveau de la biodiversité, il y en a deux autres, et un transversal. Il y a un niveau supérieur qui est la diversité génétique, et sur lequel s'appuie la vie en termes d'évolution, d'adaptation. C'est le moteur dans lequel s'inscrit l'adaptation à l'environnement. Il y a un niveau inférieur qui est la diversité des écosystèmes, des habitats, les milieux humides, montagneux, littoraux, secs, etc. Et transversalement, il y a tous les grands processus écologiques, le cycle de l'eau, de l'air, de l'azote, etc., qui sont la conséquence de l'activité des organismes sous l'influence de leurs gènes dans les écosystèmes. Et toutes ces fonctionnalités qui sont rendues, ces fonctionnalités écologiques, s'appellent, quand on les regarde d'un point de vue anthropocentré, qu'est-ce que ça nous apporte, à quoi ça nous sert, c'est ce qu'on appelle des services écosystémiques. Et donc les services écosystémiques, bien évidemment, c'est la production d'oxygène, c'est l'épuration de l'eau, de l'air, la protection des cultures, la pollinisation. Bref, c'est tout un tas de fonctionnalités sans lesquelles l'homme, mais tout un tas d'autres organismes ne pourraient pas vivre. Et c'est bien la complémentarité de ces fonctionnalités écologiques qui assure la vie, le maintien de la vie telle qu'on le connaît.
Très bien. Alors, on va donner des petites indications chiffrées sur ce qu'est la biodiversité. Et on l'avait déjà fait dans d'autres épisodes avec toi, mais je trouve ça intéressant de rappeler que je vais te lancer sur le fait que actuellement, on a décrit, on connaît 2 millions d'espèces.
C'est ça.
On sait qu'il y en a énormément plus. On parle souvent de 10 millions, mais là, je vois que sur ta slide, toi, tu mets carrément 20 à 30 millions d'espèces. Mais en fait, justement, c'est inconnu. Donc
il y en a même qui montent à 100 millions.
C'est incommensurable, en fait. Hein. Donc, ça va vite. Mais donne-nous une idée chiffrée de combien il y a de mammifères, combien il y a d'amphibiens, combien il y a d'oiseaux, les araignées, les plantes, etc. pour qu'on voit, finalement, les grands groupes, quoi. Et leur importance relative.
Alors, je peux vous donner les chiffres qu'on connaît actuellement avec les quelques ajustements qu'il y a, parce qu'il y en a probablement quelques espèces qui viennent d'être découvertes et j'ai pas forcément les derniers chiffres, mais ça donne un ordre d'idée en précisant que ces choses-là vont être complétées dans les années à venir et que même parmi les vertébrés, les mammifères, les amphibiens, etc., on en découvre encore chaque année. Évidemment, s'agissant des petites bêtes, c'est beaucoup plus. Alors aujourd'hui, à l'échelle de la planète, il y a globalement 6000 mammifères, 6000 amphibiens, 6000 reptiles.
D'accord. Dis-nous en France, parce que tu as eu la bonne idée de mettre les chiffres en France.
Alors, en France, c'est beaucoup plus modeste. Il y a 150 espèces de mammifères, il y a 43 amphibiens et 38 reptiles. Et encore, dans les 43 amphibiens, on y fait rentrer les 9 espèces invasives qui sont là depuis quelques années, qu'on a relâchées dans les cours d'eau ou dans les mares et qui, aujourd'hui, ont été intégrées à la faune française. Donc, ah, on a gagné 9 espèces, entre guillemets.
Alors, moi, je connais que la grenouille taureau, mais il y en a d'autres ?
Oui, il y a le xénope, le dactylètre, il y a les grenouilles rieuses, il y a les axolotes. En fonction des espaces, il y a différents endroits en France.
Il y a des axolotes qui vivent à l'état sauvage en France, qui ont été relâchés.
Il y a beaucoup d'amphibiens en fait qui sont élevés en captivité dans les animaleries et qui, au bout d'un moment, vont être relâchés parce qu'ils seront mieux dans la nature. Oui, on n'a plus envie de s'en occuper.
Mais je pensais pas que les axolotes pouvaient survivre.
Non, dans le sud de la France, dans des milieux un petit peu plus chauds, ouais, mais effectivement, mais c'est pas. Il y a beaucoup d'autres espèces qu'on a rapportées.
D'accord.
Et qui ont été relâchés d'amphibiens, de reptiles, et encore plus quand on va dans les autres groupes comme les mammifères, puisque là, ils ont été importés pour de l'élevage massif.
Donc je trouve, en effet, c'est des chiffres qui ne sont pas inutiles de retenir, et je vais d'ailleurs en ajouter un que je ne vois pas sur ta slide. Donc tu as dit, de manière simple, dans le monde, il y a 6000 espèces de mammifères, 6000 espèces d'amphibiens, 6000 espèces de reptiles, donc ça c'est facile à retenir, 3 fois 6, 18, 10 000 espèces d'oiseaux. Et ensuite, tu indiques qu'il y a 50 000, 49 000 pour être exact, espèces d'araignées. Et là, c'est fou, 1 300 000 espèces d'insectes.
Et oui. Et si on compare à l'échelle de la France, 156 mammifères, comme tu l'as dit, 40 amphibiens, 40 reptiles, 1750 espèces d'araignées. Mais si on regarde les autres petites bêtes, eh ben, il y a 150 espèces de coccinelles, il y a 270 espèces de papillons de jour, mais 95% des papillons sont des papillons de nuit, donc il y a 5400 espèces de papillons de nuit. Il y a 8900 hyménoptères, guêpes, abeilles, fourmis, etc. Il y a 11802 coléoptères, carabes, coccinelles, staphylins. Et donc tout ça nous donne un chiffre de 40 000 espèces d'insectes, c'est-à-dire qu'il y a plus d'espèces d'insectes sur la Terre que tous les vertébrés terrestres, si on exclut les poissons, hein, les mammifères, les amphibiens, les reptiles et les oiseaux, dans le monde ne font pas 40 000 espèces, alors que c'est le nombre d'espèces d'insectes connues en France métropolitaine, bien entendu, parce que si on rajoute l'outre-mer, là on va à des chiffres qui sont tout d'abord pas du tout connus, mais qui seraient multipliés par 3, 4 ou 5. Quoi.
Celui que j'avais envie d'ajouter, c'est le nombre d'espèces de poissons. Il y a 36 000 espèces de poissons. Voilà, c'est beaucoup plus que tous les mammifères, amphibiens, reptiles et oiseaux réunis. Hein.
C'est les vertébrés les plus nombreux, largement. Oui.
Voilà, 36 000 espèces de poissons. Très bien, on va enchaîner sur nos histoires de biodiversité. Alors, d'évidence, là, je vois que tu distingues les océans, des sols, des forêts tropicales. Pareil, en termes de proportion, qu'est-ce que tu peux nous dire?
Oui, c'est pour donner des grandes indications. Vous le savez tous que la Terre, on avait évoqué Goldorak, hein, c'est la planète bleue, donc recouverte d'eau visible de loin, et elle est recouverte de 71% d'eau sur sa surface, mais sur sa surface, sur quelques kilomètres, 2 à 10 kilomètres pour la fosse des Mariannes. Ça veut dire qu'à l'échelle de la planète, c'est le plus gros volume qui est offert, qui est disponible aux vivants. Mais on connaît aujourd'hui que 13% des espèces qui vivent dans la mer. Probablement bien plus, mais c'est l'état actuel des connaissances. À l'inverse, le sol contient un quart des espèces connues sur la planète, 23%. Et là, je ne parle pas des espèces qui vivent à terre, je parle des espèces qui vivent à l'intérieur du sol. Et la plus grande biodiversité à l'échelle de la planète, c'est les forêts tropicales, avec 80 à 90% de la biodiversité connue, puisqu'essentiellement, quand l'exploration revient de forêts tropicales, l'essentiel des organismes qui sont rapportés ne sont pas connus.
Je résume ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même intéressant, ces quelques chiffres que tu viens de dire. Tu as dit que l'océan représentait 90% du volume offert aux vivants, mais n'abrite que 13% des espèces connues.
C'est ça.
Mais il y en a beaucoup qu'on ne connaît pas, sûr. Tu as dit, pour faire simple, que un quart des espèces connues vivent dans le sol. Ce que nous avait bien expliqué ton copain Marc-André Sélos dans nos épisodes. Et tu as dit que 80% des espèces terrestres connues vivent, 8 espèces sur 10, eh ben, elles vivent dans les forêts primaires. Ensuite, tu as ce fameux chiffre effrayant que j'allais dire tous les gens de notre famille naturaliste connaissent bien, c'est la proportion humain plus, en gros, son bétail au sens très très large versus sauvage. C'est quoi la proportion?
Ça, c'est terrible. C'est terrible. Il y a 10 000 ans, peu de temps après la sédentarisation et l'avènement de l'agriculture et des premiers élevages, l'homme et tous ses animaux domestiques, tous ses mammifères domestiques, représentaient 0,1% du poids des mammifères. Insignifiant. Quelques espèces sur 6 000, c'est tout à fait logique. Or, en 2018, les proportions ont complètement changé, puisque l'homme et ses animaux...
Tu dis 2018, mais on va carrément dire 2023, hein.
Oui, 2023, mais ça veut dire que c'est encore pire que ces chiffres-là, puisque évidemment ça va plus loin. Donc aujourd'hui, l'homme et ses animaux domestiques ne représentent plus 0,1%, mais représentent 96% du poids des mammifères. C'est-à-dire que 36% du poids des mammifères, c'est les 8 milliards d'humains. 60% du poids des mammifères, c'est les 28 milliards de têtes de bétail mammifères qu'on a en élevage permanent, c'est-à-dire 4 animaux par humain vivant.
Donc, veaux, vaches, cochons, hein.
Oui, voilà, et tous les chèvres, les moutons, lapins, enfin bref, tous les mammifères.
Tu mets les poules et les oiseaux?
Non, les mammifères. Là, on parle vraiment que des mammifères. D'accord. Et évidemment, tout le monde n'élève et ne mange pas de viande sur la planète. Donc vous imaginez, d'ailleurs, en 50 ans, la population a été multipliée par 2 et la consommation de viande par 5. Donc il y a peut-être un petit problème quelque part. Et donc ça nous fait 96%, 60% de bétail, 36% d'humains. Il nous reste 4%. Pour tous les mammifères terrestres que sont les rhinocéros, les éléphants, les girafes, les cerfs, les chevreuils, les renards, les loups, etc. Et ça, c'est terrible, terrible, terrible de se rendre compte de ça. Si par contre, c'est plus les oiseaux qui vous font triper, eh ben, sachez qu'à l'échelle de la planète, 70% des oiseaux sont enfermés dans des cages et qu'il en reste 30% dans la nature, en biomasse. C'est terrible, en fait, on tue 100 milliards d'animaux chaque année pour nourrir les humains et pour en mettre d'ailleurs une partie à la poubelle. On a atteint un niveau de maîtrise ou de méprise et de destruction de la planète qui est catastrophique. Depuis la sédentarisation, on a perdu 80% des mammifères terrestres, 80% des mammifères aquatiques, 50% des plantes et 15% des poissons.
Hugues, il y a une slide là effrayante dans ta conf. Tu dis que depuis l'avènement de la civilisation humaine, avec des gros guillemets, on a perdu 83% des mammifères. Il y a encore d'autres chiffres que je te laisse nous dire, mais c'est incroyable.
Des mammifères terrestres qui vivent à terre, mais 80% aussi des mammifères aquatiques, des mammifères marins, les cétacés, 50% des plantes et 15% des poissons. Voilà, des chiffres qui sont vraiment alarmants, mais terrifiants, quoi.
On parle bien, pour être bien clair, on ne parle pas des espèces, on parle bien des populations.
Hein. Des individus.
Oui. Ça, c'est bien clair. On va enchaîner sur les différentes... Alors, c'est un mot que j'aime pas, mais on va enchaîner sur les différents rôles de la biodiversité, ce qu'on appelle les services écosystémiques. En résumé, tout ce vivant, là, à part décorer et à part nous faire sourire ou nous distraire, quel est le rôle de ce vivant, de cette biodiversité? Quels sont les rôles?
Oui, à quoi ça nous sert? Parce que finalement, si ça sert à rien et si ça nous sert à rien, c'est pas bien grave que tout disparaisse. Mais on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, hein, c'est la production d'oxygène. Les plantes, les algues produisent de l'oxygène par photosynthèse qui permet la vie des animaux et des champignons, qui sont deux groupes qui respirent. Mais ça permet aussi le stockage du dioxyde de carbone, la régulation des agresseurs dans les champs, la pollinisation, la fertilisation des sols, le recyclage des matières organiques. Bref, toutes ces grandes fonctionnalités qui permettent à la vie de se maintenir, de se nourrir et de s'entretenir. Et c'est ce qu'on a classé, alors notamment au travers des classements de la FAO, qui est l'organisme qui travaille pour l'agriculture et l'alimentation à l'ONU, en service d'approvisionnement, en service de régulation et en service d'appui. Avec un autre service, qui est un service anthropocentré, hein, qui est vraiment relatif à l'humain, qu'on appelle un service culturel. Bon, on n'a aucune preuve que les insectes et les plantes ne vont pas au théâtre non plus, mais en l'état actuel des connaissances, la culture, telle qu'on l'a définie, est attribuée à l'activité des humains. Et à tout ça se rajoute, notamment dans ces services culturels, un élément majeur qu'on ne prend souvent pas en compte, c'est le bien-être, l'émotionnel, l'affectif et la santé psychique et morale, puisque de la quantité et de la qualité de nature qu'on croise dépend le niveau de stress, la tension artérielle, l'agressivité, la prise de médicaments, la rechute, bref, toutes ces choses ont été mesurées dans des hôpitaux, dans des EHPAD, dans des écoles, dans des prisons, et ça nous permet de nous rappeler, s'il le fallait encore, que nous sommes bien des animaux, que nous sommes la nature, nous sommes le vivant, et que nous avons un besoin intrinsèque de contact étroit avec les autres organismes qui nous entourent.
Très bien, Hugues. Est-ce que tu peux, pour être un peu plus concret, nous donner des exemples de ces services écosystémiques? C'est un gros mot, mais en résumé, ça nous rend quoi comme service?
Oui, c'est ça. Alors, c'est les fonctionnalités naturelles, hein, ce qui se passe dans la nature, quand ça nous rend service, c'est ce qu'on a appelé les services écosystémiques. Et alors, je vais en prendre quelques exemples qui sont assez remarquables, notamment le contrôle des ravageurs ou des maladies dans les cultures, avec ce qu'on a évoqué au travers des auxiliaires de culture, hein, les prédateurs, les parasites, les parasitoïdes, ou les micro-organismes que sont les champignons, les bactéries et les virus. Et
toute cette qui mangent des ravageurs.
Qui régulent les animaux qui vont consommer les plantes qu'on cultive. Et donc sans ça, le moyen, c'est d'avoir une béquille chimique et donc de ravager l'ensemble de l'environnement. C'est bien ce qu'on fait depuis 70 ans avec toutes les limites qu'on y voit aujourd'hui et la perturbation des milieux et la disparition des espèces. Deux autres exemples, je voulais prendre, puisqu'ils sont assez majeurs, la pollinisation. La pollinisation, c'est le transport d'un grain de pollen d'une fleur mâle à une fleur femelle de la même espèce, une autre fleur de la même espèce, de l'organe mâle à l'organe femelle. Et c'est vraiment le préalable à la fécondation croisée, à la reproduction sexuée. Et ça, c'est primordial, puisque ça concerne 90% des plantes sauvages. En d'autres termes, ça veut dire que 9 plantes sur 10 sont là dans la nature, parce que la génération précédente, des insectes se sont baladés sur les fleurs. Donc c'est juste majeur. C'est-à-dire que sans insectes, tous les espaces que vous connaissez changent littéralement de faciès. Il restera des conifères, des graminées, des plantes qui sont susceptibles de se reproduire sans l'activité pollinisatrice des insectes.
Je vois que tu mets que oui, la pollinisation concerne 75% des plantes cultivées et tu ajoutes un chiffre que je ne connaissais pas derrière. Et ça représente que 35% du tonnage.
Voilà, ça paraît. On a l'impression qu'on diminue l'efficacité des insectes en disant ça, mais pas du tout. Puisque 75%, c'est bien la diversité de ce qu'on mange et 35%, c'est les volumes produits. Et les plus gros volumes produits, ce sont les céréales. Le riz, le blé, l'orge, l'avoine, le maïs, les céréales
qui n'ont pas besoin de pollinisateurs.
Et non, ils sont anémophiles. C'est le vent qui transporte le pollen. Bien que tu te rappelles hier, quand on s'est baladé dans le jardin, on a vu une abeille mellifère sur une graminée sauvage en train de récolter du pollen. Donc c'est important de se rappeler que les insectes ont besoin aussi des graminées, mais que les graminées n'ont pas besoin des insectes. Et les abeilles vont dans les champs de maïs, de blé, récolter du pollen, récolter des huiles, récolter des produits sur les fleurs, donc sont susceptibles d'être intoxiquées quand on traite ces cultures-là. Et on a l'habitude de distinguer les cultures entomophiles des cultures anémophiles et de ne pas se soucier de la vie des insectes dans les champs de blé, par exemple. Et alors, ce qui est important dans ces rapports diversité-tonnage, c'est que les céréales nous fournissent essentiellement des sucres lents. Et donc c'est très intéressant, mais sauf qu'on a besoin pour vivre de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. Et ça, c'est ce qu'on va trouver dans les 75% de la diversité de ce qu'on mange, c'est-à-dire les fleurs, les fruits, les légumes, qui eux sont riches de ces aliments. Donc on ne pourra pas se contenter de riz, de blé ou de pommes de terre quand on n'aura plus d'insectes.
L'autre énorme service que nous rend le vivant, c'est ce que tu appelles l'atténuation de l'embrasement climatique.
Tout à fait. Et ça, c'est majeur et tout à fait compréhensible dans le contexte actuel, notamment avec l'année 2022 qu'on vient de vivre. Globalement, une ville est 2 à 3 degrés supérieure à la campagne environnante. Dans les cas de canicule, on atteint 8-10 degrés, même dans le Grand Lyon, jusqu'à 12 degrés d'écart en 2019 entre le centre de Lyon-Villeurbanne et sa couronne verte dans la métropole de Lyon. Donc les plantes, elles vont jouer un rôle d'atténuation du réchauffement, d'îlots de fraîcheur, on appelle ça des îlots de fraîcheur, à l'inverse des îlots de chaleur, par effet d'ombrage, c'est-à-dire que toute l'énergie lumineuse, l'énergie solaire qui sera captée par les feuilles sera transformée en oxygène et en eau par la photosynthèse et en sucre pour la plante. Et donc ça ne réchauffera pas les minéraux, les routes, les trottoirs, les bâtiments. Donc ça évitera que les bâtiments redégagent de la chaleur pendant la nuit. Et surtout les arbres, et notamment les arbres à feuilles caduques, et notamment les arbres indigènes, ce qui est beaucoup moins le cas pour les plantes qui viennent du sud, puisqu'elles sont adaptées à ces milieux-là. Les arbres à feuilles caduques indigènes vont dégager énormément d'eau dans leur processus de photosynthèse. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration ou la microbrumisation. Et ça, c'est primordial puisque la quantité dégagée d'eau dépend de la température, puisque l'eau en s'évaporant, c'est une réaction endothermique et ça va donc capter un petit peu la chaleur et réduire significativement l'ambiance thermique. À côté de ça, ces plantes, elles vont permettre, et notamment les arbres, de remplir les nappes phréatiques, de remplir le sol d'eau et de le redistribuer en période de pluie. Avec un autre élément majeur, c'est que les arbres sont les plus gros pourvoyeurs de matière organique. Et la matière organique des arbres qui tombe au sol, quand elle va pénétrer dans le sol, c'est le plus gros puits de carbone qu'on ait de la biosphère continentale devant les forêts. C'est la matière organique contenue dans le sol. Donc vous avez tous eu l'occasion d'aller dans une rue dépourvue totalement de végétaux avec des températures simplement invivables en plein été et une rue à côté qui peut être végétalisée et dont les températures sont parfois de moitié.
Ouais, t'as une slide assez parlante où t'as avec nature et sans nature. En gros, t'as une ville où t'as que du béton. T'as une photo en ville, voilà, où il y a que du béton et une photo à côté où il y a plein d'arbres. Et on voit, par exemple, là, sur la façade, je vois 46 degrés en plein cagnard en ville sans nature. Et avec nature, 18 degrés.
c'est fou.
66 degrés, je vois, si je l'arrive bien à lire, sur l'asphalte de la route. Contre 30 degrés, là où il y a des arbres qui font de l'ombre. Enfin bref, voilà, tu as ce truc.
Et là, sur l'asphalte, on a le double effet. Face au soleil toute la journée et sombre, donc qui accumule la chaleur. Donc évidemment, si le soleil tape directement dessus, on a une accumulation terrible, quoi. On le voit bien d'ailleurs, on voit des vagues de chaleur au-dessus des routes quand il fait chaud. C'est bien ça, c'est bien
oui,
la restitution de la chaleur par le bitume.
Effectivement, des espèces de volutes,
voilà,
on ne voit pas bien ce qu'il y a derrière d'ailleurs. Enfin, l'air chaud, effectivement, on le voit qui se meut, enfin, je n'arrive pas bien à le dire, mais d'accord. Là, je vois la spirale climatique de la NASA.
Oui, alors ça, je vous invite à cliquer sur un moteur de recherche, spirale climatique NASA, et vous allez trouver un phénomène, une simulation de l'état de la température de la planète, du climat de la planète, entre 1880 et 2020. Et vous allez voir à quelle vitesse cette spirale s'accélère dans les dernières années, c'est assez terrible, avec une petite partie qui passe en dessous des normales, notamment au début du XXe siècle. Donc on se rappelle qu'au début, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des hivers très très froids. Donc on a eu une petite baisse de température au début. Mais c'est assez effrayant de voir à quelle vitesse le climat est en train de s'emballer.
Très bien Hugues, on s'approche de la fin de ce premier épisode sur en gros la biodive et surtout de ce qu'on appelle les services qu'elle nous rend, les services écosystémiques. Je veux bien que tu nous fasses un petit récap. Là je vois une belle slide sur laquelle tu as tout résumé. En gros il y a quatre grandes catégories d'apports de services. Quelles sont-ils ?
Oui, j'ai listé ces grandes catégories parce qu'on s'en rend très rapidement compte. C'est-à-dire que la présence en quantité et en qualité de l'eau est liée à l'activité de la nature, sa dépollution, sa restitution, son stockage. C'est valable aussi pour la température, on l'a évoqué hein, sur les îlots de chaleur versus les îlots de fraîcheur. La nature va rendre des fonctionnalités encore plus prégnantes dans les milieux artificialisés que ce sont les villes. Évidemment, s'agissant de l'agriculture, eh bien, ce sont les protecteurs, les pollinisateurs, les recycleurs, ça on l'a largement brassé en parlant des auxiliaires de culture. Et la biodiversité est le moyen pour la biodiversité de vivre. Il y a des phénomènes d'emballement, des cercles vertueux qui sont à remettre en place, alors qu'aujourd'hui on est plutôt entré dans des cercles vicieux de dégradation des habitats, des connexions et de perte du vivant.
Bon, donc en résumé, voilà, c'est les quatre points qu'on aura vus dans cet épisode. Tout ce qui est climat, température, point 1. Point 2, tout ce qui est agriculture, comment cette biodive peut nous aider, nous aide déjà, Dieu sait combien, pour nous nourrir tout simplement. Il y a donc l'agriculture, deuxième point. Il y a tout ce qui est eau, le stockage de l'eau, tout simplement l'eau qu'on boit, la filtration des eaux, de tout ce qu'on salit, etc. Ça, c'est la biodive qui fait le boulot. Troisième point, donc c'est l'eau. Et quatrième point, c'est la biodive en tant que telle, qui a ne serait-ce qu'une valeur symbolique, une valeur de rêve, mais Dieu sait qu'elle en a d'autres, de tout simplement de qualité des milieux.
Et le droit de vivre.
Et le droit de vivre, bien sûr. Donc ainsi s'achève ce premier épisode sur la biodive, sur le vivant tout simplement, et ses services écosystémiques, qui est une horrible expression qui fait très justement technocratique et tout, juste des services qu'elle nous rend. Et la prochaine fois, on va parler avec toi de l'effondrement. On va achever de se faire mal avant de parler de ce qu'on peut faire pour atténuer tout ça, évidemment, dans la suite de nos épisodes. Donc le prochain, ça sera l'effondrement de la biodive. Je te retrouve très vite pour parler de ça. D'ici là, prends soin de toi. Salut Hugues.
Salut Marc.
Pendant notre combat, nous deux, tu avais l'œil du tigre. Tu en voulais ce soir-là. Il faut que tu retrouves ça maintenant. Et la seule façon, c'est de recommencer au commencement. Tu vois ce que je veux dire ?